Tous les livres dont il est question dans l'émission qui suit sont disponibles auprès du Service québécois du livre adapté. Bibliothèque et Archives nationales du Québec offrent gratuitement ce service à tous les Québécois ayant une déficience perceptuelle. Pour plus d'informations sur l'admissibilité et l'abonnement, on visite le site sqla.banq.qc.ca ou on téléphone au numéro sans frais 1-866-410-0844.
Il sentit son corps entrer dans l'eau comme une pierre puis couler vers le fond. La lumière l'accompagna un instant et il vit autour de lui les poissons effrayés s'échapper. L'air l'aidait encore. Et plus profonds encore, vers cette obscurité qui venait à sa rencontre en même temps qu'elle semblait s'éloigner. Tenir bon. Bientôt, ce serait fini. Comme pour son grand-père, Michele.
À livre découvert.
Lire est le seul moyen de vivre plusieurs fois, a dit Pierre Dumayet, qui était un animateur de télévision en France et qui avait d'ailleurs écrit aussi, qui était un grand chroniqueur littéraire au Nouvel Obs, si je ne m'abuse. Alors voilà, lire est le seul moyen de vivre plusieurs fois. C'est pour ça qu'on aime lire et c'est pour ça que j'adore animer cette émission Un livre découvert sur les ondes de Canal M. Je m'appelle Clotilde Seille et je vous souhaite la bienvenue à tous.
La table des matières.
Alors aujourd'hui à l'émission, je reçois presque, il n'est pas en studio, il sera au téléphone avec nous Michel Langlois, non-voyant, qui dévore littéralement les livres audio, qui vient nous parler d'une part de sa passion, mais aussi d'un ou deux livres à partager avec vous. Je reçois Chantal Lamarre. Ah, ce n'est ni l'actrice, ni l'animatrice, ni la metteur en scène, ni la chroniqueuse, mais bien la lectrice que je reçois aujourd'hui. Bonjour Chantal.
Bonjour Clotilde.
Et puis je reçois aussi pour la, je ne sais plus, deux, troisième, quatrième fois peut-être. Oui, ben est-ce que vous
quatrième,
voulez. C'est
pense.
Un de nos chouchous, Luc Mercure, auteur à 16 heures, mais bénévole tout le temps, ici aussi chez Vues et Voix. On parlera d'un livre dont j'ai déjà parlé un peu à l'émission la semaine dernière, parce qu'il y a un livre qui s'appelle La Mesquita, qui vient de sortir au SQLA, et vous viendrez nous présenter un de vos coups de cœur que vous avez lu.
Oui, c'est Dans la grande nuit des temps de Antonio Muñoz Molina.
Chapitre 1. Les livres audio, ils en mangent.
Et vous en mangez, Michel Langlois. Bonjour.
Oui, bonjour, Clotilde.
Ça me fait très plaisir de vous accueillir. C'est votre première participation, Michel.
Oui.
On a eu la chance ici, chez Vues et Voix, de faire votre connaissance à la plus récente journée de la culture. C'était vendredi dernier. Et vous êtes venu présenter à quelques bénévoles qui font de la lecture à voix haute. Pour vous, notamment, vous êtes venu leur parler de la joie que vous avez d'écouter ces livres-là. Et j'aimerais que vous nous partagiez un petit peu ça.
Oui, écoutez... Ça part de, disons, moi je suis handicapé visuel très sévèrement depuis que je suis jeune, depuis la naissance, et puis j'ai une cécité totale depuis 40 ans.
40 ans?
Oui. Et puis, ce que ça amène à un handicap, c'est que ça amène des limitations, puis des fois des frustrations.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire qu'il y a des limitations, puis il y a des choses qu'on peut faire à moitié, il y a des choses qu'on peut pas faire du tout, puis il y a des choses qu'on peut faire pleinement.
Mm-hmm.
Donc, le livre audio, là, ça fait partie des choses que moi, je peux apprécier pleinement. Aujourd'hui, j'ai pas aucune limitation. Je sens pas que c'est quelque chose d'à moitié, là, comme quand mm-hmm. je vais avoir un feu d'artifice, que j'ai juste le son, puis je vois pas les belles explosions.
Ouais.
Et puis, en plus aussi, disons que... combiné à la qualité d'un bon livre, je pense que c'est un ajout qu'on peut se lire écouter des livres.
Oui.
Parce que la qualité de l'enregistrement et puis la qualité de la lecture faite par les bénévoles,
oui.
D'après moi, ça ajoute au livre.
Le fait que ce soit des voix humaines, et là tout le monde va me dire, ben là c'est une lapalissade. Non, parce qu'on sait que maintenant on a les voix de synthèse hein, qui rentrent de plus en plus et il y a des livres entiers. Non, c'est ça. Mais vous savez que je connais beaucoup de non-voyants qui finalement se sont habitués à ça aussi. Vous aussi ou pas du tout aux voix de synthèse?
Moi j'utilise des synthèses vocales, mais pour des fins fonctionnelles,
mm-hmm,
pas des fins de lecture et créative.
D'accord.
Je ne suis pas encore assez en amour avec le robot pour ça.
Michel Langlois, vous avez eu envie de nous présenter cette semaine un livre que honnêtement, je ne connais pas. Vous l'avez découvert par le biais de la bibliothèque de l'INCA. Il s'agit de « Les fugitifs » de Shirley Conran. Je prononce ça
oui,
comment?
C-O-N. Alors. Oui, c'est je connaissais ni l'auteur ni le titre, mais j'ai lu le livre après la description. Mm-hmm. Et puis je l'ai lu deux fois.
Oh.
Puis je vais le relire une autre fois, c'est sûr.
Oh, alors qu'est-ce qui fait que vous allez relire une fois, deux fois, trois
ben,
fois
c'est ce livre? C'est un livre que quand tu lis le premier coup, là, c'est tu le lis pour savoir l'histoire.
OK.
Et après ça, tu le relis pour apprécier les détails. Regarde la trame, là, c'est cinq madames qui sont les épouses du président et des quatre vice-présidents d'une grosse compagnie minière de Pittsburgh qui exploite le gisement ou qui exploite une petite île quelque part en Polynésie où il y a des cannibales.
Oh boy, oui.
Et puis, la compagnie minière font le congrès annuel dans cette île-là. Puis il y a un leader local pas très gentil qui assassine les cinq maris. Pendant que les cinq madames sont parties à la pêche avec un guide. Quand les cinq épouses reviennent de la pêche, il n'y a plus de mari, l'hôtel est dévasté. Puis là, le guide de pêche, il va les cacher dans la forêt. La seule chose qui les sauve, c'est qu'ils sont dans la partie de la forêt où les esprits des cannibales voisins cohabitent. Fait que les cannibales, ils vont pas dans cette partie de forêt-là.
OK.
C'est parce qu'ils ont peur des esprits, de leur mort.
Mais c'est une espèce de lost que vous hein, on est un peu dans cet esprit-là.
Lost
ou
et délivrance.
entre lost et délivrance, dit Chantal Lamarre. Vous savez, le film délivrance, enfin, en tout cas, bref, qui était aussi une affaire comme ça. Bon, mais alors, elles sont retenues prisonnières?
Elles sont pas retenues prisonnières. Elles sont libres, mais elles sont prisonnières de la situation. Si elles
c'est
vont
ça,
dans
de l'environnement.
Plus dans le pays, elles vont se faire dévorer par les cannibales. Puis de l'autre côté, c'est la mer. Mais ce qui est beau, là, ce qui est le fun dans le livre, c'est comment l'auteur il met en scène les... comment cinq madames pas mal gâtées
oui.
sont obligées par les circonstances d'aller chercher leur capacité puis dans le plus profond d'elles-mêmes, là, leur...
Ouais.
C'est la lutte de la survie. Là.
Oui, 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 je pense qu'on voit revoler un peu les talons hauts.
Même quand tu dis qu'ils sont obligés de capturer des rats pour les mettre dans une cage puis pour leur faire goûter des fruits que la forêt dispense, mais qui sont la plupart du temps empoisonnés, graves, empoisonnés.
Alors, c'est ça, oui, il faut trouver le moyen de survivre.
Oh là, oui,
là.
Oui.
Oh là, oh là.
C'est pour ça que, comprenez-vous, quand je te dis, quand je l'ai lu la première fois, c'était pour apprendre l'histoire.
Mm-hmm.
Quand je l'ai lu la deuxième fois, c'était pour apprécier chaque moment, chaque détail. C'est ça que je trouve, moi, dans un livre qui te marque, c'est que quand ça transcende la trame, puis que mm-hmm. tu vas chercher les petits détails. Tu sais, comme je dis des
vous,
fois...
C'est
là,
ça, là, comme quoi, par exemple? Qu'est-ce qui vous a marqué à la seconde lecture, qui vous avait peut-être échappé en ne pensant qu'à l'histoire, à la première lecture?
Ben, premièrement, c'était un petit peu la complémentarité de chacune des madames qui ont trouvé de chercher leur qualité. Puis il y en a une, ouais. des cinq, elle, tout ce qu'elle peut faire dans la vie, elle, c'est à séduire. Mais tu sais, là, on ne peut pas séduire les cannibales, tu sais.
Et mais les autres? Oui, pardon.
Elle va être utile à quelque chose, elle aussi.
Mm-hmm.
Ce qu'on pourrait dire, parce que je veux pas vendre des punchs, là.
Non, mais enfin, j'imagine que les cinq personnes ont cinq personnalités très, très marquées et très différentes.
Oui. Très complémentaires, finalement, qui sont en train de découvrir. Surtout qu'à un moment donné, suite à un accident bête, leur guide de pêche qui les a aidés au début, ils vont mourir.
Non.
Fait que, oui.
Non, 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 non. C'est fou parce que vous m'en parlez. Puis évidemment, la seule question maintenant que j'ai envie de vous poser, mais il ne faut vraiment pas m'y répondre, c'est « Ça finit-tu bien? » Non, mais
pardon?
C'est dire « Est-ce que ça finit bien? » Mais vous n'êtes pas obligé de me répondre.
Je ne peux pas vous répondre.
Ah, c'est bien. Mais bravo,
non.
Michel.
C'est comme le capitaine Bonhomme, ça, là. la suite, faut lire le livre.
Faut lire le livre. Michel Langlois, c'est un plaisir. Je pense que vous allez devenir un habitué de cette émission-là. Si l'aventure vous tente, c'est beaucoup moins dangereux que l'aventure de ces madames.
Ah, ça fait toujours plaisir de partager...
Un bon livre.
Un bon livre, des bons moments, absolument.
Parce que,
comme je t'ai dit au début de l'émission, moi, je trouve que c'est tellement important ce que les organismes font pour nous autres, qu'il faut retourner l'ascenseur quand on peut. Hein.
Ben écoutez, c'est très, très touchant ce que vous nous dites, Michel, parce que, voyez-vous, à table, il y a mon ami Luc Mercure et moi-même qui sommes aussi bénévoles ici. Chantal va le devenir très, très prochainement. Et vous savez, ça nous donne la petite tape dans le dos aussi qui est très, très, très appréciée. Et personnellement, je suis très, très touchée, Michel, par votre témoignage.
Ah, ça fait plaisir. Il faudrait que je surveille un livre que vous avez lu.
Comment vous... Ah, ben, vous... Oh, j'en ai lu au moins une quarantaine maintenant, là, depuis quelques temps que je suis là. Alors, vous allez bien finir par tomber sur un bouquin.
Je vais m'informer de ça.
D'accord, Michel. Je vous embrasse. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous remercie beaucoup. Je rappelle le titre du livre dont vous nous avez parlé, Les Fugitives de Shirley Conran. Ça s'écrit C-O-N-R-A-N. Absolument. Et c'est à l'INCA. Oui. Merci beaucoup, Michel. Au plaisir.
Merci à vos invités.
Au revoir.
Chapitre 2. L'invité spécial.
Et l'invité spécial aujourd'hui, c'est donc Chantal Lamarre. Je suis tellement contente, Chantal, parce que lorsque j'ai commencé à animer cette émission-là, il y a un peu plus d'un an, je m'étais fait une liste. Une wish list. Alors, il y avait ceux que je connais, ceux que je connais un peu, ceux que je connais pas du tout. Alors, évidemment, vous étiez dans la troisième, parce que, bon, je vous connais comme tout le monde, en tant qu'animatrice, chroniqueuse, actrice, tout ça, mais je vous connaissais pas personnellement. Puis un jour, j'ai pris mon téléphone et très gentiment, vous m'avez rappelé, mais alors, ça n'a pas pris boudinette, comme on dit en France.
Oh. Non, ben, ça prend pas boudinette pour venir parler de livres, de quelque chose qui nous intéresse, puis qui nous interpelle, sur lequel on sent, bon, nous allons converser, puis...
Oui, parce que vous aimez lire beaucoup.
Ah, j'aime beaucoup lire, oui. Mm-hmm. Oui, ça fait partie de ma vie. Il faut que sur la table de chevet, ce soit varié. J'ai une drôle de façon, une drôle de méthode de lire aussi. Je veux aller entre la BD, le Paris Match du vendredi, et puis quelque chose de plus consistant. Je me dis toujours, il y a certains livres qui me demandent un effort, je l'admets. Il faut vraiment que je sois dans une disponibilité exceptionnelle parce que je remonte parfois pour recommencer. Puis, mais ça fait partie de ma vie depuis toujours. Et puis, une grande préoccupation, c'est d'essayer de transmettre le goût de la lecture à ses enfants.
Oui.
Oui. J'ai fait ça quand j'étais jeune, pendant 2 ans, de travailler pour une maison d'édition et de seulement sillonner la province avec une poche de hockey, de livres, un petit décor, une marionnette, pour donner envie aux enfants d'aller chercher des livres à la bibliothèque. Et c'est le moment de ma vie où je me suis sentie le plus utile, où je ne remettais jamais rien en question, où je ne m'ennuyais pas, où je rencontrais toutes sortes de publics et que je voyais des bibliothèques bien dégarnies. Et ça, on remonte dans les années 80. Et puis, je n'ai pas l'impression que ça a vraiment beaucoup bougé.
Non, c'est ça. Et puis là, j'en reviens toujours. Je pense que c'était Alexandre Jardin qui avait dit un jour que ça prenait comme ça des mesures personnelles pour faire avancer parfois des causes lorsqu'on s'aperçoit que sur le plan politique et gouvernemental, il ne se passe rien et que même, on peut le dire en ce moment, on régresse. Et je pense que finalement, en ce moment, ça nous prendrait quelques centaines d'autres Chantal Lamarre qui débarquent comme ça avec des sacs. C'est-à-dire, ce serait peut-être un truc à créer. Il va falloir que j'y pense. Oh là
bon,
là.
Pensons-y.
On va se rappeler.
Oui.
Chantal, lorsque je vous ai demandé, lors de notre premier entretien téléphonique, alors, de quel livre allez-vous parler? Vous n'avez pas hésité beaucoup, hein?
Non, parce que j'ai cherché un livre qui faisait partie de votre bibliothèque, qui était accessible
au
lecteur du SQLA. Et c'est un roman que j'ai lu il y a peut-être un an et demi, Le roman du mariage de Jeffrey Eugenides. J'ai acheté ce livre-là en voyant que c'était l'auteur de Middlesex, que je n'avais pas lu, mais que j'avais entendu tellement de choses comme un roman percutant, quelque chose de fort, quelque chose qui a habité longuement les lecteurs en me disant « je vais le lire, mais je ne suis pas tombée dessus ». Mais après avoir lu le roman du mariage, je me suis rendu compte que c'était le même auteur que The Virgin Suicide. Je ne sais pas si M. Mercure, vous connaissez la traduction française ou si vous avez lu ce roman ou vu le film. Bon, Jeffrey Genides a écrit 3 romans. C'est un auteur dans la jeune cinquantaine. On ne peut pas dire qu'il est hyper productif, mais quand même, tout ce qu'il a écrit marque et il y a vraiment toujours une façon de se distancier de ce qu'il avait fait avant. Alors, on ne retombe pas en terrain connu. C'est un maître pour un vrai roman psychologique.
Je voudrais, avant toute chose, parce que je sais qu'on va nous le demander et c'est normal, Eugenides, je voudrais l'épeler parce que les gens prennent des notes. Oui.
E-U-G-E-N-I-D-E-S.
Voilà, c'est ça. Donc, Geoffrey. Et c'était Sofia Coppola qui avait porté à l'écran...
The Virgin Suicide.
Voilà, exactement. Alors... On est dans l'univers quoi de
On est dans l'univers
Jane Austen,
ce roman là oui un peu de Jane Austen, c'est une jeune étudiante en littérature aux États-Unis. Déjà c'est assez rare. Les campus américains regorgent de cette espèce d'élite surscolarisée qui deviendront les grands gagnants de ce monde, mais tu sais c'est intéressant vraiment un département de littérature où tout le monde est un peu marginal parce que aimer le livre et puis essayer d'en faire sa vie, c'est déjà quelque chose. Alors ça se passe où je pense c'est Providence, une petite ville pas loin de la mer aux États-Unis. Et la jeune Madeleine, elle, veut vraiment consacrer ses études littéraires à Jane Austen et elle a son club de lecture de femmes où on étudie Jane Austen et évidemment, ce sont des jeunes femmes qui sont vraiment interpellées par tout le côté romantique sur la façon de faire la cour, sur socialement l'aboutissement que peut donner tel ou tel mariage parce que c'est ce qui va donner ta valeur. Et puis, c'est étonnant parce qu'on est au début des années 80. Bon, une petite vague féministe peut-être qui s'essouffle, mais quand même pour ces jeunes femmes-là, le mariage, c'est pas le but, c'est pas la quête ultime. Mais cette fille-là, ben, on voit qu'elle est super brillante, elle a vécu entourée de livres, mais c'est pas ce à quoi on s'attendrait non plus. Elle est pas moche du tout, elle est très belle, puis on parle des personnages autour d'elle qui étudient. Il y a un garçon qui est amoureux d'elle, qui a l'air bien sous tout rapport, mais juste un peu beige, si je peux me permettre, qui s'appelle Mitchell. Et elle est complètement amoureuse et a tout jeté son dévolu sur un autre garçon. Là, son nom m'échappe.
Attendez, je vais l'avoir ici. Léonard.
Léonard. Voilà. Léonard, qui est le beau ténébreux, qui est vraiment, c'est vrai, le prototype du gars quand t'es une... T'as 20 ans, c'est ce que tu veux. Tu veux ce mystère-là, ce garçon-là est comme, dès le départ, un très drôle de comportement, c'est-à-dire qu'il l'aime et qu'ensuite il la laisse choir et puis elle est toujours en train de se relever du dernier écueil de ce qu'il a fait subir. Mais pour se rendre compte que finalement, oui, il l'aime, oui, ils vont se retrouver ensemble, mais il y a un grave problème, il est bipolaire.
Ah, c'est ça.
Il est maniaco-dépressif. Elle va le marier, elle va le suivre et puis...
Elle va s'en mordre les doigts,
Évidemment. Et on va toujours suivre la trajectoire du premier, de Mitchell, qui, lui, est tellement éperdument amoureux. C'est de voir que les sentiments dans les romans de Jane Austen sont les mêmes, avec des jeunes qui ont toujours l'air désintéressés de la chose, et puis qui ne tiennent pas absolument à se marier, puis qu'ils ont la vie pour vivre librement, puis essayer, puis d'y aller à tâtons, puis d'avoir toutes sortes de relations. Et je sais pas, c'est une écriture... Ça te parle d'emblée, puis c'est très digeste de parler de littérature, et puis ça va de soi, et tu suis le parcours de cette fille-là. C'est dans les années 80, mais ça aurait pu être avant, ça aurait pu être les années 90. Je pense que toutes les filles ont une Madeleine en elles, et puis je veux pas vous dire comment ça se termine, mais c'est difficile aussi de parler de la maladie mentale.
Oui, parce qu'il en est beaucoup question.
Et d'une façon aussi concrète. Là.
Oui, parce que là, on parle des traitements qui sont infligés à et qui sont épouvantables, avec le lithium, entre autres.
Avec le lithium, mais c'est seulement par le lithium qu'il réussit à avoir un semblant de normalité, mais on veut pas vivre, c'est très difficile de vivre avec quelqu'un qui est médicamenté à ce point-là. On l'a perdu d'une certaine façon.
Et tantôt, je parlais de Jane Austen parce que finalement, on s'aperçoit que l'univers décrit dans les livres de Jane Austen et celui-là, on est aussi dans le triangle amoureux.
Absolument.
On est dans l'importance du mariage.
Oui.
Sans mariage, ou en tout cas sans l'amour, sans le regard de l'autre, on n'existe pas.
Oui.
Et puis, où les hommes sont justement des... Comment ? Ils ne sont pas fantasques, mais parce que c'est faux, mais ils ont des personnalités auxquelles les filles s'accrochent. Je dirais, elles sont complètement aveuglées, c'est ça que je veux dire, souvent.
Oui.
Parce qu'elle est complètement aveuglée.
Oui.
Et puis l'autre, il tombe en amour, le Mitchell, il va finir chez Mère Teresa, je pense, finalement.
Ben, oui, il va se lancer dans les bonnes causes, l'humanitaire, la théologie, toutes sortes de choses. Mais il revient quand même sporadiquement, et puis... C'est une belle histoire.
On me dit ici, c'était une critique de Télérama, un roman psychologique dans le plus pur sens du terme, qui s'assume comme tel et revendique son inscription dans la longue tradition du roman réaliste anglo-saxon. Justement, on vient exactement d'en parler. Il y avait d'autres critiques que je suis allée chercher ici. Le roman du mariage est long à démarrer. Vous avez trouvé ça, vous ?
Non.
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 Mais révèle progressivement une profondeur, une émotion et une composition qui impose la classe de Monsieur Eugénidis. Je m'excuse, je ne suis pas sûre de bien prononcer son nom. Qu'est-ce que j'avais ici ? J'en avais repéré une qui me semblait pas mal, dont j'avais envie de vous parler. Ah oui, on dit ici qu'il pêche parfois un peu du côté de ceux qu'il entend caricaturer ou dénoncer. Pourtant, nombreux sont les scènes qui ne manquent ni de drôlerie, ni de piquant.
Absolument.
Qu'est-ce qu'il dénonce?
Je ne sais pas à quoi on fait référence.
On ne fait pas un, c'est ça. Non. Moi non plus, je me suis dit, tiens, je vais poser la question.
Dans Virgin Suicide, en fait, ce qu'il décrit, c'est l'espèce de bien-pensanterie, le mode de vie américaine très convenu, parce que c'est des parents de 7 jeunes filles qui ne peuvent pas vivre comme les autres. Mm-hmm. On est dans les années 70, mais ces filles-là ne peuvent pas ni porter de jupe courte, ni sortir, ni d'avoir de garçons dans leur vie. Et pour ceux qui n'ont pas lu ce livre-là, je dévoilerai pas la fin parce que c'est trop troublant. Mais peut-être que c'est de ça qu'il nous parle.
Est-ce qu'on pourrait peut-être, Jean-Sébastien, je ne sais pas si, parce que malheureusement, je n'ai pas fait la recherche et je ne suis pas une bonne fille. Est-ce qu'on pourrait vérifier si ce serait traduit par quoi, le suicide des vierges ou ce serait Virgin?
Je n'ai aucune idée. Je l'ai lu en anglais et j'ai vu le film, la version américaine.
Si tu vas dans catalogue SQLA, voyez-vous, on fait ça comme ça, on est en famille. Et ce serait peut-être de faire Eugénidus dans auteur. Et alors, comme Eugène, mais ça se finit par IDUS. Et comme ça, voir si on a d'autres, parce que ce serait intéressant de savoir si ces livres-là sont aussi disponibles au SQLA, ce que je souhaite. En attendant...
Si vous aimez le roman du mariage, retournez à Virgin Suicide.
C'est ça, c'est ce que je me dis. Vous avez un petit extrait?
Oui, oui. Mettre en contexte un peu, je crois que ça fait partie un peu... je ne sais pas, la thèse qui est en train d'ébaucher pour ses travaux à propos de Jane Austen. Alors, je crois que c'est Madeleine qui parlait. Elle dit, selon Sanders, le roman avait connu son apogée avec le roman matrimonial et ne s'était jamais remis de sa disparition. À l'époque où la réussite sociale reposait sur le mariage et où le mariage reposait sur l'argent, les romanciers tenaient un vrai sujet d'écriture. Les grandes épopées étaient consacrées à la guerre, le roman au mariage. L'égalité des sexes, une bonne chose pour les femmes, s'était révélée désastreuse pour le roman. Et le divorce lui avait donné le coup de grâce. De l'avis de Sanders, le mariage ne signifiait plus grand-chose et il en allait de même pour le roman. Qui utilisait encore le mariage comme ressort dramatique? Personne. On n'en trouvait plus la trace que dans les fictions historiques. Alors, je pense que c'est peut-être prémisse, quelque chose qui a vraiment, vraiment inspiré l'auteur.
Nous avons une réponse ici.
Oui. Alors, Virgin Suicide, livre en version française, porte le même titre, présentement non disponible au SQLA. Au Québec, il y a eu une adaptation cinématographique. Le titre québécois est Cri ultime.
Ah, d'accord.
Mais pour l'instant, c'est...
Ouais, merci beaucoup, Jean-Sébastien. Cela dit, allez vérifier aussi, peut-être de votre côté, vous qui nous écoutez, du côté de la bibliothèque de l'INCA, parce que parfois, ça n'est pas disponible au SQLA, mais ça l'est à la bibliothèque de l'INCA. Alors, au moins, ça nous donne les informations. Jean-Sébastien Laliberté, vous le savez à quel point, sans lui, mais que serais-je sans toi? qui vint sous mes fenêtres. Donc, Jean-Sébastien qui m'aide pour toutes les émissions ici. Chantal Lamarre, je vous remercie tellement. Je suis contente parce que vraiment, je ne suis pas déçue. Je suis convaincue que nos auteurs ont aussi apprécié votre présence dans nos studios. Et à un moment donné, ils vont peut-être reconnaître votre voix alors que vous allez vous aussi...
Je viendrai lire Virgin Suicide.
Ça. Oui. Ah, ça, ce serait une bonne idée. Voilà une bonne suggestion à faire. Chantal Lamarre, on vous retrouve bientôt, je l'espère. Je vais vous souhaiter une bonne continuation dans toutes vos émissions. Je pense que vous prenez un plaisir fou avec cette émission, entre autres sur l'histoire, que moi, je ne manque pas de suivre sur TV5. Alors, eh bien, bravo. Belle saison à vous. Et puis, on vous retrouve. Et puis, bonne lecture, surtout.
Merci, Clotilde.
Chapitre 3. Le classique de la semaine.
J'ai pris l'habitude, depuis que l'émission est passée en format d'une heure, de remettre en mémoire un classique. Et cette semaine, j'ai pensé à La Vallée des Avalées, la première œuvre publiée de Régent Ducharme par Gallimard et prix Goncourt en 66, quand même, faut-il le rappeler. Est-ce que vous l'avez lu, l'un ou l'autre, Luc Mercure, La Vallée des Avalées?
Oui, j'ai lu ça quand j'étais adolescent.
Adolescent?
Oui, ça a été une œuvre marquante.
Ah oui, hein? Chantal?
Ah, moi aussi, oui, j'ai joué Inespéré Inattendu aussi.
Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, non,
j'ai mangé du Ducharme.
Oui, l'univers de Ducharme, c'est comme... Oui.
Et voyez-vous, je lisais à un moment donné, en faisant des recherches là-dessus, sur une femme qui disait « En rangeant mes étagères, je tombe sur La Vallée des Avalées de Régent Ducharme. C'est un livre sur lequel je tombe souvent en rangeant les dés, parce que c'est un livre qui malheureusement ne sort quasiment pas. Quel dommage. Je tiens, et je ne suis pas la seule, Régent Ducharme pour un très grand auteur, et je trouve son roman, un roman d'enfance, absolument époustouflant. Elle dit aussi, l'écriture de Ducharme, vous me direz ce que vous en pensez, poésie brute, vivante, pleine de formidables images, par exemple cette citation, « On aimerait avoir aussi soif qu'il y a d'eau dans le fleuve, mais on boit un verre d'eau et on n'a plus soif. »
Oui, il y a un sentiment d'urgence chez Ducharme et il y a une combinaison de scènes très violentes, très dures, mais d'une immense poésie aussi. Je pense que c'est un des éléments qui fait la force de Ducharme, là, ce mélange, cette intensité-là, à la fois dans le poétique et dans le drame humain.
Oui, parce qu'en plus, cette femme-là, qui est Bérénice, hein, c'est ça, qui, elle, aime son frère, hein, Christian, qui rêve d'être lanceur de javelot, hein, quand il est petit, quand il est jeune. Elle l'aime d'amour et les parents vont tout faire, hein, pour séparer ça, en gros. Hein, vous qui l'avez lu, parce que moi, il faut que je me remette dedans aussi.
Oui,
c'est un des premiers que j'ai lu aussi en France, avant que j'arrive au Québec, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et honnêtement, moi, il a fallu que je me remette aussi dedans pour cette émission-là. Et c'est fou parce que j'ai aussi choisi ça parce que vous allez le voir dans la deuxième partie de l'émission. On parle encore là beaucoup d'amour, beaucoup de triangles amoureux aussi, avec notamment le livre de Chalandon dont je veux parler. Et La Vallée des Avalées, ben c'est ça, cette histoire d'amour qui commence ici, hein, sur l'île des Sœurs, et qui finit finalement en Israël, parce que elle est élevée dans l'éducation juive. Lui, Christian, il est élevé dans l'éducation catholique, et donc à un moment donné, c'est ça, les parents vont les séparer. J'avais envie de vous lire un court extrait de La Vallée des Avalées, ne serait-ce que pour vous redonner peut-être... est-ce que j'ai une minute pour aller jusqu'à 28? Oh mon Dieu, ça va être court, mes amis. Tu me fais signe, hein? D'accord. Tout m'avale. Quand j'ai les yeux... Oh, regarde, on va se passer de la petite musique et puis tu vas me faire signe. Je vais te suivre au doigt et à l'œil. Tout m'avale. Quand j'ai les yeux fermés, c'est par mon ventre que je suis avalée. C'est dans mon ventre que j'étouffe. Quand j'ai les yeux ouverts, c'est par ce que je vois que je suis avalée. C'est dans le ventre de ce que je vois que je suffoque. Je suis avalée par le fleuve trop grand, par le ciel trop haut, par les fleurs trop fragiles, par les papillons trop craintifs, par le visage trop beau de ma mère. Le visage de ma mère est beau pour rien. S'il était laid, il serait laid pour rien. Les visages, beaux ou laids, ne servent à rien. On regarde un visage, un papillon, une fleur, et ça nous travaille. Puis, ça nous irrite. Si on se laisse faire, ça nous désespère.